Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce mercredi 4 juin 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les titres ce matin, le Nigeria nie que 10 généraux de l'armée aient été reconnus coupables d'avoir aidé Boko Haram, alors que les manifestations pour les écolières enlevées sont de nouveau autorisées. Le gouvernement centrafricain décide d'interdire les SMS.
Cette mesure intervient suite au regain de violence la semaine dernière à Bangui et à un appel à la grève générale qui a été relayé par SMS.
À l'international, arrestation et sécurité renforcée en Chine, en marge du quart de siècle de la révolte Tiananmen. Et dans la partie magazine, la colère au Tchad à propos de la privatisation des télécommunications.
Nos intérêts sont en train d'être menacés. Mais le fait qu'on puisse garder cette maison pendant des années et qu'on doit repartir comme si c'était des vulgaires messieurs, c'est là où ça nous touche. Et nous avons des armes à nourrir derrière nous.
Également au programme, le billet sportif et la plage musicale. Le Nigeria pour ouvrir le journal, Anne.
Oui, le ministère nigérian de la Défense a démenti hier les informations selon lesquelles 10 généraux et 5 autres officiers militaires de haut rang ont été reconnus coupables d'avoir aidé Boko Haram. Un porte-parole, le major général Chrisolu Kalalade, a précisé qu'aucun général de l'armée nigériane n'a été traduit en cour martiale, comme rapporté par plusieurs quotidiens du pays. Depuis des mois, des politiciens et des militaires affirment que des officiers aident le groupe islamiste et que des soldats combattent même dans leur rang avant de revenir à leur caserne. Toutefois, le major général Olu Kolade maintient que les récents articles de presse ne sont que de la propagande pour ternir l'image de l'armée nigériane, mais aussi, d'après lui, pour tromper les Nigérians et la communauté internationale.
Pendant ce temps, la police nigériane est revenue sur sa décision d'interdiction des manifestations de soutien à Abuja aux plus de 200 écolières retenues captives par Boko Haram depuis le 15 avril dernier. Une marche a été autorisée hier dans la capitale fédérale. La veille, les forces de l'ordre avait laissé entendre que les manifestations quotidiennes étaient désormais interdites car elles risquaient d'être récupérées par des éléments dangereux menaçant la sécurité de l'État. Mais les manifestants ont contesté cette interdiction en déposant une plainte en cour hier. Un porte-parole de la police a expliqué que le préfet de police de la ville avait seulement voulu mettre en garde contre l'infiltration de criminels ayant des liens avec les insurgés.
En République centrafricaine, l'utilisation des textos est suspendue. Les autorités espèrent ainsi contribuer à la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
L'utilisation des SMS pour tous les abonnés de la téléphonie mobile est suspendue jusqu'à nouvel ordre, a indiqué hier une lettre du ministère des Postes et Télécommunications adressée aux directeurs généraux des compagnies téléphoniques. Cette décision de suspendre les textos a été prise sur instruction du Premier ministre, précise la lettre. Cette mesure intervient suite au regain de violence la semaine dernière à Bangui et à un appel à la grève générale qui a été relayé par SMS. Dimanche, le Premier ministre André Nzapayeke a lancé un appel à la reprise du travail. Il a par ailleurs annoncé que le 8 juin sera une journée pour le désarmement volontaire à Bangui.
Le printemps arabe a revigoré le terrorisme. C'est le ministre algérien des Affaires étrangères qui l'a affirmé hier à Alger à l'ouverture d'un forum sur les menaces sécuritaires en Afrique du Nord. Ramtane Lamamra est d'avis que la relocalisation des réseaux d'Al-Qaïda en Afrique et l'extension des activités de Boko Haram jusqu'en Afrique centrale rendent vulnérables les États subsahariens. La rencontre à Alger est organisée par le Centre américain des études stratégiques pour le Proche-Orient et la région de l'Asie du Sud.
La Somalie va accueillir le premier ambassadeur américain en 20 ans. Aucun nom n'a filtré encore sur qui devra représenter les États-Unis dans ce pays qui se remet progressivement du chaos. Issa Napon.
Le président Barack Obama va nommer le premier ambassadeur américain en Somalie en 20 ans. Selon la sous-secrétaire du département d'État Wendy Sherman, le nouvel ambassadeur va résider à Nairobi au Kenya. Aucun nom n'est jusque-là avancé, mais le président Obama, actuellement en tournée européenne, devrait l'annoncer sous peu. Depuis deux décennies, le pays était livré au chaos. L'ambassade américaine à Mogadiscio est fermée depuis 1991. Puis en octobre 1993, les images de 18 soldats américains traînés dans les rues de Mogadiscio sont restées comme un traumatisme pour les Américains. Mais depuis, les islamistes Al-Shabaab ont été chassés de la capitale et ont perdu du terrain. Le chef de l'exécutif américain a reçu l'année dernière à la Maison-Blanche le président Hassan Sheikh Mohamoud, dont l'élection en septembre 2012 a suscité l'espoir de doter enfin le pays d'institutions pérennes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plébiscite pour Abdel Fattah el-Sissi en Égypte. L'ancien chef de l'armée a remporté l'élection présidentielle selon les résultats officiels proclamés par la commission électorale. Jean-Roger Bion.
Abdel Fattah el-Sissi a recueilli près de 97% des voix. Le taux de participation est de 47% contre 52% pour l'élection de 2012 qui a vu la victoire de Mohamed Morsi. La victoire de M. Sissi ne faisait aucun doute selon les sondages, mais l'enjeu se situait sur la mobilisation de ses concitoyens, censé lui donner la légitimité nécessaire pour mettre fin à la grave crise politique que traverse le pays et redresser l'économie. Les frères musulmans avaient appelé au boycott, accusant Sissi et ses alliés de fraude et de duplicité. La confrérie a qualifié le régime de Sissi de continuation du coup d'état militaire qui a renversé l'islamiste Mohamed Morsi.
L'élection présidentielle qui a eu lieu hier en Syrie est une honte, d'après Washington. Bachar al-Assad n'a pas plus de crédibilité aujourd'hui qu'il en avait hier, a déclaré Marie Harf, porte-parole du département d'État américain, et d'ajouter que la décision d'organiser un tel scrutin est totalement déconnectée de la réalité. Mais pour le premier ministre syrien, Wael el-Alki, l'élection va remettre le pays sur les rails. Plus de 15 millions de Syriens étaient appelés aux urnes dans un pays ravagé par une guerre civile, ayant fait plus de 160 000 morts. Les résultats seront annoncés jeudi, mais le président Bachar al-Assad est attendu d'être maintenu au pouvoir.
Le président Barack Obama doit rencontrer demain soir le président François Hollande à Paris. Vendredi, les deux hommes devront se retrouver au château de Bénouville aux côtés de nombreux chefs d'État pour les cérémonies marquant le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. François Delattre, ambassadeur de France aux États-Unis, a remis la médaille de la Légion d'honneur à certains anciens combattants américains qui ont contribué à libérer la France de l'occupation nazie.
Vous savez, cette visite, c'était d'abord une immense émotion de rendre hommage aux millions de jeunes Américains qui sont venus, il y a 70 ans et plus, restaurer notre liberté et celle de l'Europe. Ces vétérans, vous savez, nous leur devons tout. Pour moi, comme ambassadeur ici, il n'y a pas de devoir plus sacré, je dirais, que de remettre la Légion d'honneur à ces anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui sont très émus et qui, bien souvent, pour la première fois, quand je leur remets la Légion d'honneur, devant leur famille, devant leurs proches, devant leurs amis, ils parlent plus volontiers de ce qu'ils ont fait sur le sol français.
François Delattre, ambassadeur de France aux États-Unis. Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap maintenant sur la Guinée où tout fonds de plus de 50 millions de francs guinéens va désormais faire l'objet de vérifications. Conakry entend ainsi barrer la route au financement du terrorisme. Une loi vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale du pays. Dans la capitale guinéenne, nous retrouvons notre correspondant Zakaria Camara.
C'est une loi adoptée mardi par les parlementaires guinéens contre tout argent devant servir à financer le terrorisme. Pour démanteler des cas suspects, les députés ont aussi mis en place une cellule de traitement des informations financières. Elle aura pour mission de veiller sur la circulation fiduciaire à condition que le montant dépasse 5000 euros. Précision, cette cellule n'aura pas de pouvoir de police. Elle ne peut donc procéder à l'arrestation des présumés bailleurs du terrorisme, mais elle aura une grande marge de manœuvre de vérifier la provenance de fonds détenus par un tiers. Une loi contre le financement du terrorisme en Guinée, un sujet qui intéresse quelques Guinéens.
Très bonne idée parce que nous savons que ces terroristes sont le plus souvent financés par quelquefois des sociétés écrans. On ignore d'où proviennent, en tout cas, leurs fonds. On ignore d'où vient leur argent.
On sait que les organisations terroristes sont très bien organisées et elles fonctionnent sur un budget beaucoup plus important. Mais si on pouvait, à mon sens, relever plus cette somme, c'est-à-dire 50 millions, c'est très bien.
Ce qui concerne la vérification des comptes pour les personnes qui peuvent avoir 50 millions, et que cela soit suspect dans le cadre du financement du terrorisme, je trouve cela aussi bien. Mais il ne faudrait pas que ça soit un moyen de pression sur certaines personnes, un règlement de compte contre certaines personnes.
L'adoption de cette loi permet à la Guinée de se conformer aux recommandations du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Mais au moment où la sous-région est sous la menace des groupes terroristes, notamment Boko Haram au Nigeria et les djihadistes au Mali. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
La privatisation annoncée de la Société des télécommunications du Tchad, la Seutel Tchad, et le licenciement collectif de son personnel font grincer des dents. Des employés affirment payer les pots cassés et réclament que leurs droits sociaux, dont 60 mois de travail effectif, soient préservés. Cependant, le gouvernement estime que la situation des employés sera examinée au cas par cas. N'Djamena, le reportage complet de notre correspondant François Djekombe.
La société des télécommunications du Tchad est en difficulté. Sans s'opposer à sa privatisation qui demeure la seule issue honorable, les quelques 500 employés exigent que soient payés intégralement leurs droits sociaux. Éloi Ndimadjingar, un des représentants du syndicat national des agents du secteur des TIC, Synastic.
Nos intérêts sont en train d'être menacés. Par deux fois, nous sommes allés le rencontrer. La dernière rencontre date du 26 nous a fait savoir que pour avoir rendu service à la Sotel, ils nous payent nos droits. Mais le fait qu'on puisse garder cette maison pendant des années et qu'on doit repartir comme si c'était des vulgaires messieurs, c'est là où ça nous touche. Et nous avons des armes à nourrir derrière nous. 556 employés à la Sotel. Nous avons demandé les garanties d'emploi. Et tu m'as dit, dans un président, qu'il garantit l'emploi. À notre dernière rencontre, il dit que ce n'est pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Nous ne demandons rien à l'État tchadien. C'est sur le prix de vente de la Sotel là, que nous voulons qu'ils débloquent quelque chose pour nous donner.
La privatisation de la Sotel Tchad a également préoccupé la représentation nationale qui a interpellé le ministre des Postes et des Technologies de l'Information, Daoussa Déby Itno. Pour lui, la Sotel Tchad est une entreprise fortement endettée. En 2009, l'État, pour la tenir debout, y a injecté une somme de 53 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, elle fait des pertes mensuelles de 400 millions de francs CFA. La privatisation reste donc la seule alternative pour permettre aux employés licenciés d'entrer dans leurs droits. Daoussa Déby Itno.
Profitons de l'occasion pour la privatisation et sur les retombées de la privatisation, en priorité, prendre en charge le sort du personnel. Il faut répartir le personnel en trois. Les fonctionnaires qui sont appelés à regagner leur maison de départ. Tous les droits pour les services rendus seront payés. Le deuxième cas. Le repreneur, en cas où c'est privatisé, il va travailler avec les gens. De ce côté, donc, une bonne partie de ces personnels va être résorbée par le repreneur. Il y a un effectif résiduel qui va rester, qui n'est pas parti à la fonction publique parce qu'il n'est pas fonctionnaire, qui n'est pas été repris par le privé parce qu'il y a des raisons propres. Là, maintenant, il faut mettre un plan social. Ça veut dire ne pas les laisser dans la rue. Il faut les accompagner. Il faut vouloir trouver du travail, une reconversion d'activité. Il faut négocier avec eux pour leur trouver quelque chose qui leur permette de reprendre une nouvelle vie.
N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En Chine, c'est aujourd'hui le 25e anniversaire de la sanglante répression de la manifestation pour la démocratie sur la place Tiananmen. Pour parer à toute éventualité, Pékin a multiplié les arrestations. Le compte-rendu de Camille Gros-Didier.
À l'approche du 4 juin, des dizaines d'activistes ont été arrêtés ou placés en résidence surveillée. Lorsqu'on lui a demandé mardi pourquoi Beijing juge nécessaire de sévir contre les dissidents, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré que la Chine n'a fait qu'appliquer la loi. En Chine, il n'y a que ceux qui enfreignent la loi. Il n'y a pas de soi-disant dissidents. Les services compétents du gouvernement chinois agissent conformément à la loi. L'autorité juridique de la Chine doit être respectée, a dit M. Hong. Incarcérer des activistes est une tradition pour Beijing qui procède à ses interpellations à l'approche de certains anniversaires, mais qui a fait preuve cette année d'une diligence particulière. Parmi les derniers détenus, l'artiste australien Guo Jiang, qui est né en Chine. Il a été embarqué par la police dimanche soir après que le Financial Times eut publié une interview avec lui. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités chinoises à immédiatement libérer ceux qui ont été arrêtés dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression. Navi Pillai a aussi déploré les mesures prises pour limiter l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Les autorités devraient encourager et faciliter le dialogue, la discussion en tant que moyen de surmonter l'héritage du passé, a-t-elle souligné. Il faut dire que Beijing ne permet aucune discussion publique des événements de 1989 à Tiananmen, lorsque des centaines, voire des milliers de manifestants ont été tués par des militaires chinois dans la capitale. Le bilan n'a jamais été publié. La Chine a décidé depuis longtemps de regarder vers l'avenir, a souligné le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, évoquant les réalisations énormes au plan social et économique du régime.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, Washington Forum vous donne un avant-goût de la Coupe du monde de football au Brésil qui aura lieu cette année du 12 juin au 13 juillet. Quelle est votre équipe favorite? Qui a le plus de chances de remporter le tournoi de cette année? Et comment la VOA se prépare-t-elle à couvrir cet événement? Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU.
Le viol et le meurtre de deux jeunes filles dans le nord de l'Inde a mis en évidence l'oppression sexuelle des femmes dalites, lesquelles sont exclues du système des castes. Le drame met également en lumière les risques encourus par les femmes et les enfants vivant dans des maisons dépourvues de toilettes. Un rappel des faits avec Darina Naidu.
Les sinistres images de deux cousines de 14 et 15 ans pendues à un arbre à Boudouin dans l'état de l'Uttar Pradesh en Inde, après qu'elles ont été violées et étranglées le 28 mai, ont envoyé une onde de choc à travers le pays et dans le monde. Mais S.R. Dharapuri, ancien policier, aujourd'hui militant des droits humains, n'a pas été surpris par ce crime horrible. Durant ses 32 ans de service dans l'état le plus peuplé et pauvre de l'Inde, il a été témoin de beaucoup d'incidents d'exploitation de la communauté dalit. Les castes supérieures exploitent les femmes des Dalits et les communautés les plus faibles comme si c'était leur droit. Et parfois, le viol est utilisé comme une arme pour supprimer de la société ces groupes qui ne sont pas en mesure de recourir à l'autodéfense. La raison principale est qu'ils sont tributaires de la caste possédant des terres et comme tels, ils sont très vulnérables. Les hommes arrêtés pour le crime sont trois frères qui ont été inculpés de viol et meurtre et deux fonctionnaires de police pour avoir tenté de dissimuler le crime. La ministre de la Femme et de l'Enfant, Maneka Gandhi, a promis de mettre en place une permanence téléphonique nationale pour les femmes et des centres de crise pour les victimes de viol. Il n'y a rien que tout ministère ou tout gouvernement puisse faire pour empêcher les gens d'être violents envers les autres, si ce n'est apporter une protection forte et une grande dissuasion. C'est l'objectif de ce gouvernement d'assurer dissuasion et protection, et nous le ferons de manière aussi efficace que possible. Mais les activistes comme Dharapuri se demandent d'où viendra cette protection. Le meurtre des jeunes filles ayant exposé l'indifférence de la police vis-à-vis des communautés dalites. Quand le père d'une des victimes est allé solliciter l'aide de la police au sujet de la disparition des deux cousines, il a été interrogé sur son appartenance communautaire. Il affirme avoir été victime d'abus. Sa plainte n'a pas été enregistrée jusqu'au lendemain, quand des villageois en colère ont manifesté sous l'arbre où les filles avaient été pendues. N'ayant pas de toilette chez elles, comme plus de 600 millions d'Indiens, les adolescentes devaient sortir quand c'était nécessaire. Et c'est dans une telle situation qu'elles ont été enlevées.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil non-stop sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
L'heure de passer à la tranche sportive. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Jacques.
En football, J-8 avant la Coupe du Monde au Brésil.
Oui, le sélectionneur de l'Australie, Ange Postecoglou, a dévoilé hier le groupe des 23 joueurs retenus pour le Mondial. C'est la dernière sélection à dévoiler sa liste. Le défenseur Wiltshire du Dynamo de Moscou et l'attaquant Kennedy n'y figurent pas.
Et la Colombie inconsolable, Nicolas.
Eh oui, Jacques, privé de sa vedette Radamel Falcao pour le Mondial, la Colombie a réagi avec tristesse à la nouvelle qui a aussi provoqué sur les réseaux sociaux un déchaînement de colère contre le joueur Soner Ertec. C'est lui, souvenez-vous, qui est à l'origine de la blessure de Falcao en France. Alors l'annonce a été faite avant-hier. Le forfait du Tigre, c'est le surnom que l'on donne évidemment à Falcao. Le joueur de l'AS Monaco a douché les espoirs des supporters colombiens, à commencer par le chef de l'État, Juan Manuel Santos.
International tennis à Roland-Garros pour terminer.
La petite balle jaune sur la terre battue parisienne, tombeur de Roger Federer au tour précédent, Ernests Gulbis a éliminé Tomas Berdych en 3-7, 6-3, 6-2, 6-3 ce mardi en quart de finale. Il affrontera au prochain tour Novak Djokovic. Chez les dames, mené 6-1, 5-4 par Garbine Muguruza, Maria Sharapova est parvenue à renverser la surprenante espagnole pour se hisser dans le dernier carré de Roland-Garros.
Et maintenant, le grand bol d'air frais musical concocté par Roger Muntou, comme chaque matin. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Même s'il est décédé il y a de ça près de 5 ans, le King of Pop reste présent dans les cœurs de ses fans. Son dernier album semble coller parfaitement bien avec l'image que l'on a de Michael Jackson. Un vrai grand succès posthume pour l'artiste, c'est fort probable. Ce matin, nous écoutons le nouveau son de MJ, Slave to the Rhythm.
She's at night, she dances to his needs. She dances till he feels just right. Until he falls asleep. She dances.
Roger, les fans du roi de la pop se ruent-ils chez les disquaires pour se procurer Escape, le nouvel opus de Michael Jackson?
Oui, Jacques, le pari est osé. Il y a 4 ans, la sortie d'un premier album posthume baptisé Michael, défendu par les singles Hold My Hand et Hollywood Tonight, a laissé un goût amer dans la bouche des inconditionnels du chanteur. Mais l'aura intacte de ces derniers, disparu en juin 2009, a permis au disque de s'effrayer un chemin dans les classements du top 10 American Music.
Michael Jackson, Slave to the Rhythm. Merci Roger.
De rien Jacques, un clin d'œil à notre fidèle auditeur Habib Moussa à Djibouti.
Vous avez rendez-vous avec Roger Muntou chaque soir à 20h PU dans RM Show.
This is for the man at work who works all the time. She can't be rude as she says. I must be home tonight. Kitchen stove, dinner is served by 9. He says his food's an hour late. She must be out of her mind. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm. A slave to the rhythm.
Et voilà, petit bonus musical sur la VOA signé Michael Jackson. Avant de refermer le monde aujourd'hui, un récapitulatif de l'actualité avec Anne Albertson.
Le ministère nigérian de la Défense dément les informations selon lesquelles 10 généraux et 5 autres officiers militaires de haut rang ont été reconnus coupables par une cour martiale d'avoir aidé Boko Haram. Et pendant ce temps, la police nigériane a décidé d'autoriser à nouveau les manifestations de soutien à Abuja aux écolières retenues captives par Boko Haram. En Centrafrique, l'utilisation des textos est suspendue. Les autorités espèrent ainsi contribuer à la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La Somalie accueillera le premier ambassadeur américain en 20 ans. Aucun nom n'a encore filtré sur qui devra représenter les États-Unis dans ce pays. Plébiscite pour Abdel Fattah el-Sissi en Égypte. L'ancien chef de l'armée a remporté l'élection présidentielle. Et en Chine, en marge du 25e anniversaire des manifestations pro-démocratie de la place Tiananmen à Pékin, des arrestations ont eu lieu et la sécurité a été renforcée.
Merci Anne, Anne Albertson qui a également dirigé la mise en onde. Merci aux collègues qui m'ont aidé à préparer ce magazine. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à l'écoute de la VOA. Take care.